pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ils sont trois. Brigitte Lizot est députée Les Républicains en marche de la 4e circonscription du Nord. Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la 1ère circonscription de la Creuse. Et Séverine Gibson était la suppléante de Bruno Le Maire dans la 1ère circonscription de l'Eure. Elle est devenue députée LREM lorsque celui-ci a été nommé ministre de l'Économie et des Finances. Ce sont trois nouveaux élus, trois novices en politique sur les 313 députés petits nouveaux de La République En Marche, trois députés débutants venus de la société civile, la fierté d'Emmanuel Macron, la grande nouveauté de la démocratie française, les forces vives de la start-up qu'est la France. Nous les avons suivis depuis le jour de leur élection dans leur circonscription jusqu'à leur premier pas dans l'hémicycle. Les voilà maintenant rentrés, badgés, écharpés, cocardés. Les voilà à présent au travail. Les 18 et 19 septembre, pour renforcer leur esprit de groupe, les 313 ont d'ailleurs tous été invités à participer à une journée de travail par petits groupes en mode team building. D'après notre confrère Marianne, des activités ludiques étaient proposées entre autres. L'une d'eux, explique l'hebdomadaire, proposait aux parlementaires de marcher dans la grande salle qui les accueillait au hasard, au son d'une musique entraînante. Quand la musique s'arrêtait, ils devaient se rapprocher de la personne la plus près d'eux et discuter durant une minute avec elle autour de l'idée de « quelle est votre principale motivation en tant que député ?». Selon Marianne, le coût de ce séminaire de deux jours s'est élevé à 250 000 euros. Un peu avant cela, durant l'été et jusqu'à il y a quelques jours, nous avons voulu, quant à nous, en savoir davantage sur leur méthode de travail, leur approche de la législation et leur regard sur la fameuse loi travail au cœur de l'actualité et même de la campagne électorale présidentielle. C'est le premier gros dossier de leur législature, la première mesure phare du gouvernement, un engagement, un symbole, mais dans peu de temps aussi ce sera une réalité. Nous avons donc réuni quelques questions générales sur la loi travail. Après les avoir informés précisément du sujet que nous allions aborder, nous leur avons posé à tous les trois les mêmes questions. Brigitte Lizot, que vous entendrez en premier, a répondu le 13 juillet, le jour même où les députés votaient le recours aux ordonnances pour légiférer sur la réforme du Code du travail. Nous avons rencontré Jean-Baptiste Moreau le 27 juillet, le jour où le Sénat a à son tour autorisé le recours aux ordonnances. À ce stade, le contour des dites ordonnances est à peu près dévoilé, avec notamment les 8 mesures phares prévues par la loi. Enfin, Séverine Gibson a répondu le 12 septembre, première journée de manifestation de la rentrée contre la réforme du Code du travail, 200 rassemblements dans toute la France, entre 223 et 500 000 personnes dans la rue. On les écoute donc sur la loi travail, trois députés de la République, c'est jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture, les députés débutants, épisode 3 par Pascal Pascariello et Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Est-ce que vous trouvez, vous, trop compliqué le Code du travail ? Ou trop protecteur pour le salarié ?
L'ancienne version ou maintenant ? C'est toujours difficile de répondre comme ça à des questions. L'entrepreneur, le patron, le responsable a aussi beaucoup de contraintes. L'idée, c'est quand même d'assouplir ces contraintes sans pour autant que le salarié soit spolié.
Est-ce que vous trouvez le Code du travail trop compliqué ? Oui, ça c'est certain, oui, c'est certain. À la fois trop compliqué et à la fois il est tellement lourd et tellement important en volume qu'il comprend même en son sein certaines contradictions qui font qu'aujourd'hui il est inopérant et évidemment trop compliqué. J'en ai discuté encore avec une chef d'entreprise hier, elle est du même avis.
Est-ce que vous trouvez le Code du travail trop compliqué ? Je pense qu'il faut avoir un œil expert, sans doute, pour le décoder, que c'est peut-être pas abordable pour tout le monde, et qu'une simplification, en fait, il est vrai que c'est une excellente idée, en fait, de le mettre à la portée de chacun, de le rendre peut-être plus lisible et compréhensible. Et il faut penser qu'aussi qu'une personne qui travaille n'a pas forcément... Enfin, il y a plusieurs niveaux d'éducation parmi les gens qui travaillent en France et que y a des gens qui savent à peine lire et écrire aussi, qui travaillent. Donc il faut prendre tout le monde en compte. On est un ensemble, on est un pays, on est une population. Donc il faut effectivement s'adapter à tout le monde et au plus simple, le mieux, quoi, en fait.
Que comprenez-vous, vous, de cette réforme ? C'est-à-dire, quelles sont pour vous les principales propositions pour réformer le Code du travail ?
On a beaucoup parlé de l'inversion de la... Attendez. L'inversion de... Alors, pour quelqu'un comme moi qui est assez direct, qui va vite à l'essentiel, quelquefois, je suis un peu perdue des salles de commission. L'inversion de la...
Hein, c'est des échanges de textos.
Oui, ça c'est la boucle Telegram. Alors là, c'est la boucle les députés du Nord. Donc on est que neuf là. Donc après, on a des messageries en commission, on a des messageries du groupe La République en Marche. L'inversion de la plusieurs. Bon, écoutez, là je trouve plus. Donc on va laisser tomber. Alors votre autre question.
Que comprenez-vous des principales propositions pour réformer le Code du travail ? Les principales propositions, aujourd'hui, on les a pas déjà, parce que les ordonnances, elles sont en cours de rédaction. Donc aujourd'hui, on n'a pas le texte des ordonnances.
Il y a quand même un projet de loi d'habilitation des ordonnances qui a été présenté par la ministre du Travail. Il y a 9 articles qui ont été présentés.
C'est la libération au niveau du droit du travail, c'est le rendre à la fois plus souple et plus adapté aujourd'hui à la vie des sociétés telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est le simplifier aussi pour permettre une meilleure efficacité, puisque vu les taux de chômage qu'on a aujourd'hui, il faut bien se remettre un peu en question tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, notamment au niveau du code du travail, puisque s'il était si parfait que ça, on n'aurait pas autant de chômeurs qu'on en a aujourd'hui.
Que comprenez-vous des principales propositions pour réformer le Code du travail ? Alors là, c'est une question politique. Il faut quand même réaliser que le mandat a débuté il y a très peu de temps, qu'on a eu un mois de vacances, que les gens étaient en vacances 2 mois. Donc je dirais que le vrai travail de relation par rapport aux nouvelles lois va vraiment arriver au retour de vacances des gens, quoi, en fait. Les dispositions qui ont été prises par le gouvernement sont très orientées pour les PME-PMI, pour tous salariés aussi, les instances, par exemple le CHSCT avec les délégués du personnel, etc. En fait, on a regroupé en un comité, je ne sais plus, c'est le CSE, mais alors je ne sais plus la signification. On va aussi... laisser les entreprises vivre plus à leur rythme parce qu'on fait beaucoup d'accords de branche. En fait, chaque entreprise est spéciale et différente, donc il est bien de les laisser en fait évoluer comme elles le souhaitent et avec un accord consensuel entre les employés et la direction.
Comment vous êtes-vous informé sur le sujet ? Est-ce que vous avez suivi des auditions des syndicats ou consultations des organisations patronales ?
Non, ça c'est vraiment le travail de commission. Et nous, à l'Assemblée, enfin quand on se réunit dans l'hémicycle, on nous présente la loi en fait. Et on nous demande notre avis, c'est ça l'idée.
Ben oui, et justement pour que vous exprimiez votre avis, vous, comment vous avez potassé un peu cette loi ? Est-ce que
C'est-à-dire, bon, j'en ai entendu parler comme tout à chacun, je dirais. Et après, quand on entend la majorité et l'opposition se répondre plus ou moins aimablement, on arrive à se faire une idée.
Sur le moment ?
Oui, sur le moment, puisqu'on a vraiment une vue d'ensemble, tout d'un coup.
Vous n'avez pas regardé avant le nom ?
Non.
Comment vous informez-vous sur le sujet ? J'ai lu un certain nombre de choses, à la fois sur le site de l'Assemblée nationale et à la fois dans la bibliographie un peu sur comment ça se passait et comment ça se déroulait, oui. Journaux, mais surtout dans le règlement de l'Assemblée nationale et puis le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Après, on s'est informé par nous-mêmes, puis c'est pas si compliqué que ça à comprendre non plus.
Comment vous vous êtes informé sur le sujet ? Alors, dès que je le pouvais, effectivement, je suivais les commissions, puisqu'en fait, elles sont, enfin, on peut les voir sur Internet, en fait, sur le site de l'Assemblée. Donc, je l'ai fait autant de fois que je pouvais. Mais bon, après, il faut avoir aussi le matériel papier pour suivre, enfin, ou peut-être autre, parce qu'il faut comparer des lois d'avant, des lois de maintenant, les préconisations, les remarques. Donc, moi, je n'avais pas tous les éléments en main. Mais bon, j'ai essayé du mieux, d'être au plus près des débats. Avez-vous suivi les auditions des syndicats et les consultations des organisations patronales ? Non, je n'ai pas du tout suivi. Non.
Mais vous avez eu à voter. Moi, c'est pour ça que je vous avais imprimé. Regardez là. Hop, le 1er août, Séverine Gibson. Vous avez voté pour l'ensemble du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social.
C'était pas les débats, qu'en fait, il y a eu plusieurs heures d'hémicycle, plusieurs jours. Et en fait, je suis arrivée à la phase finale. Donc, le texte, je l'ai lu, le texte final. Mais je me sens pas, je dirais, j'ai pas été impliquée dès le début. Donc, c'est un peu. Enfin, c'est pas de la faute de l'Assemblée, c'est uniquement parce que je suis arrivée en retard et que, en fait, j'ai pris les choses en cours de route et qu'on peut pas rattraper les heures d'hémicycle. Et que, voilà.
Est-ce que vous avez eu le temps déjà de déposer un amendement ?
Non, les amendements pour La République En Marche ont été déposés par le groupe de la commission.
Et est-ce que vous aviez eu envie en particulier ?
Quand on n'a pas travaillé sur une loi, c'est difficile, voire impossible, de déposer un amendement. Il faut savoir un peu de quoi on parle quand même.
Avez-vous eu le temps de déposer un amendement entre le vendredi 30 juin et le lundi 3 juillet ? Non, mais j'avais pas forcément à déposer d'amendement puisque c'est vraiment la commission affaires sociales qui s'est occupée de l'examen intégral de la loi travail. Après, si on avait eu des idées supplémentaires ou complémentaires, on l'aurait fait, mais en l'occurrence, non, j'avais pas forcément la volonté de poser un amendement. Vu comment ça s'est passé et vu l'urgence, on n'a pas le temps de chacun des 577 s'exprimer sur ce sujet-là. Il faut avoir quelque chose de pertinent à dire pour s'exprimer et pas juste s'exprimer pour s'exprimer. Le rôle des députés, c'est pas juste d'être dans l'hémicycle et de lever la main.
Avez-vous eu le temps de déposer un amendement entre le 30 juin et le lundi 30 juillet ? Non, parce que je n'étais pas encore députée, en fait. Comme je suis arrivée que le 22 juillet, je n'ai pas travaillé sur cette partie. Moi, je n'ai pas été dans la phase d'examen, etc. Et que en plus, ce n'était pas ma commission.
En quoi ces mesures peuvent-elles endiguer le chômage ?
Alors, l'idée, c'est effectivement de permettre aux patrons, aux chefs d'entreprise, d'assouplir les procédures de licenciement, en espérant que ça les incite à embaucher plus facilement.
Par exemple, on a vu, c'est des études de l'OCDE, donc des études qui montrent que finalement, quand on sécurise des CDI, ce qui veut dire qu'on permet pas un licenciement si facilement, ça n'est pas un frein à l'embauche.
J'avais une réponse que je viens d'oublier. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le pari qui est fait, c'est celui d'assouplir la fin du contrat de travail pour provoquer plus d'embauches.
Et est-ce que vous n'avez pas peur que justement, ça crée évidemment une précarité plus grande, c'est-à-dire que là, on risque de détricoter le code du travail au détriment du salarié ?
Alors moi, je vais dire qu'on adapte le code du travail. Cette loi en particulier peut apparaître comme plus favorable au patron, mais peut-être. Mais on prend en compte quand même les deux. Moi, j'ai aussi entendu des patrons se plaindre. Le code du travail, c'est un annuaire. Alors, je sais qu'il y a eu... on ne peut pas enlever des... Quelle page arrache-t-on de l'annuaire, bon. Donc, on est, je crois, un carrefour de tout. Il faut que les choses changent, évoluent. On peut se tromper.
Qu'est-ce qui, pour vous, dans ce projet de loi, puisque vous me dites on pense aux deux, qu'est-ce qui serait pour le salarié alors ?
Bah, le salarié, c'est pas non plus quelqu'un qui subit en permanence l'horrible patronat. Il y a aussi des salariés qui sont bien dans leur entreprise.
Oui, mais la question, c'était qu'est-ce qui, dans ce projet de loi, est en faveur du salarié ?
Qu'est-ce qui est en faveur du salarié ? Vous me prenez... Là, je vais pas répondre à cette question-là. Parce que je connais pas suffisamment. Donc, tout ça fait que...
En quoi cette réforme du Code du travail peut-elle endiguer le chômage et protéger les salariés ? Elle rend, en fait, l'embauche moins compliquée et moins lourde. Et après, elle instaure aussi de nouvelles protections. Mais une fois de plus, c'est, tout le détail de ces mesures seront dans les ordonnances qui seront validées au mois de septembre.
Vous parlez de nouvelles mesures pour protéger les salariés, vous pensez à quoi ?
Il va y avoir un certain nombre de choses. Là, je ne me souviens plus exactement de ces mesures-là, parce que ça fait maintenant quelques jours qu'on a passé là-dessus et on est passé sur d'autres dossiers. Voilà.
Et cette modification du Code du travail, justement, elle n'est pas tournée un peu plus en faveur des employeurs plutôt que des salariés ?
Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, après, les employeurs, c'est eux qui créent l'emploi. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas la fonction publique. Enfin, je veux dire, on ne va pas embaucher tout le monde dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale. Donc, c'est les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Donc, il faut leur essayer de leur faciliter un peu la vie pour leur permettre de créer de l'emploi. Je veux dire, un artisan, quand il a beaucoup de boulot, il embauche. Mais il embauche à condition que l'embauche ne lui mette pas en péril sa société.
En quoi cette réforme du Code de travail peut-elle endiguer le chômage ?
En fait, là, je ne suis pas vraiment encore, je dirais, experte ou, prête, en fait, à pouvoir vous répondre avec une grande certitude. Comment on pourrait dire ça ? Les entreprises, à mon avis, ne seront pas freinées dans leur développement. En fait, elles ne vont pas être prisonnières d'une loi, mais en fait, elles vont évoluer à leur rythme avec les employés. Donc, ce qui veut dire que ça va être adapté à leur structure et que si elles ont une opportunité de prospérer avec des nouvelles commandes, etc., on ne peut pas dire qu'elles vont être freinées par des lois. En fait, elles vont pouvoir évoluer leur structure comme elles le souhaitent, en fait. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est un système et en fait, il y a eu des échanges et il y a un consensus. Il y aura toujours des licenciements comme il existait avant et comme il y a après. Par exemple, il y aura toujours des périodes d'essai comme avant, comme après, etc. Donc je vois pas en quoi on va les protéger plus ou moins.
France Culture, les pieds sur terre.
Une entreprise en bonne santé qui licencie, est-ce que vous êtes d'accord ?
Votre question n'est pas complète ? Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise en bonne santé qui licencie ? Quelles sont ses raisons de licencier ? Elle ne licencie pas juste pour licencier, j'imagine. Il doit y avoir des raisons derrière ça. Donc c'est un peu court.
Mais ça veut dire que ça peut être un licenciement boursier.
Ça peut être un licenciement boursier, mais on n'est pas seul au monde.
Une entreprise en bonne santé qui licencie, vous êtes pour ou contre ? C'est pas si simple que ça. Après, il faut examiner les raisons, effectivement, ce qu'on entend par bonne santé, déjà. Et puis, ça dépend du contexte. Mais globalement, évidemment, qu'on n'est pas favorable de façon abrupte à des licenciements alors que l'entreprise fait des bénéfices. Mais il faut examiner quand même la situation cas par cas. C'est pas si simple que ça.
Une entreprise en bonne santé qui licencie. Êtes-vous pour ou contre ?
Alors après, il faut savoir pourquoi, en fait. Même si elle est en bonne santé, elle peut... Enfin, là, je ne peux pas m'exprimer parce qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Après, est-ce que c'est... On ne sait pas le motif du licenciement. On ne sait pas les perspectives de l'entreprise. On ne sait pas... Enfin, voilà, on ne peut pas évaluer. Il y a quand même des obligations pour l'un et l'autre, l'employeur et l'employé. Il faut voir au cas par cas. Là, je ne peux pas dire c'est bien ou pas bien.
C'est ce qu'on appelle les licenciements boursiers.
Ouais, bah alors s'ils le font, je pense que c'est quelque chose qui sera du court terme. Parce que si on a de moins d'employés, on ne peut pas non plus dégager autant de travail, une qualité de travail qui est bonne. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une politique durable de l'entreprise, en fait.
Est-ce que vous avez déjà été licencié ou est-ce qu'un de vos proches a déjà été licencié?
Ah ben moi j'ai, oui effectivement, j'ai dans l'industrie pharmaceutique, j'ai eu un plan social très important. Et ben à ce moment-là, on se dit, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que tout avait été bien négocié, donc on a eu des avantages sociaux, des primes de licenciement importantes. Donc je peux pas prendre mon cas pour exemple. C'est très compliqué parce que d'abord j'ai pas la mémoire des chiffres, mais c'était très conséquent et franchement c'était un gros travail en amont des syndicats. Il y avait donc une indemnité, il y avait aussi des aides à la formation. Non, c'était très bien fait.
Parmi les ordonnances les plus importantes de cette réforme, la place des syndicats dans ce genre de négociation va être réduite. Est-ce que vous imaginez justement qu'avec cette nouvelle réforme, par exemple, vous auriez peut-être été moins bien défendu dans une entreprise aussi importante ?
Oui, c'est certainement ça. Alors après, je sais, enfin, c'est loin aussi dans mon souvenir et il y a eu des négociations, oui, des syndicales, probablement des accords de branche, mais ça peut être lourd aussi quelquefois les syndicats. Mais bon, là, c'est chacun sa façon de voir les choses.
Avez-vous déjà été licencié? Oui. Oui, j'ai été licencié à la suite de deux périodes d'essai. C'était quand je travaillais en Côte d'Or, dans un organisme de conseil aux éleveurs. Bah, c'était au mois de juin 2003, exactement. Et j'ai su deux jours avant que, voilà, qu'ils ne me gardaient pas, parce qu'ils n'avaient pas les budgets pour assurer le CDI jusqu'au bout. Ça arrive un peu à tout le monde et dans toutes les familles, à mon avis. Et bon, après, on se retourne vite, et dès le lendemain, j'ai fait plus de 100 lettres de motivation, et j'ai rebondi deux mois plus tard.
Avez-vous déjà été licencié?
Non. Non, j'ai jamais été licencié. J'ai travaillé dans des entreprises où... dans une entreprise où, effectivement, on a dû se séparer de personnel, mais on l'a fait d'une façon à ne pas licencier les gens, en fait. On n'a pas créé ou blessé de gens, on n'a pas licencié de gens... De façon arbitraire ou effectivement c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment de sa vie. Avez-vous des proches qui ont été licenciés? Non, j'ai pas eu ce cas de figure autour de moi.
Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui cumulent des CDD de quelques mois ou d'un mois ou...
Non, j'ai pas dans mon environnement proche des gens qui cumulent les CDD et normalement on n'a pas le droit d'en cumuler beaucoup.
Pas de personnes qui ont des missions d'intérim?
Non plus. J'ai la chance d'avoir un entourage qui a des emplois stables.
Autour de vous, connaissez-vous des gens qui cumulent des CDD courts de quelques mois, voire de moins d'un mois? J'en ai connu par le passé, là moins, mais j'en ai connu effectivement par le passé, dont certains dans les entreprises publiques. Oui. C'est pas des contrats comme on entend parler. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur, parfois, a besoin d'embaucher, mais va passer par de l'intérim ou ne va pas embaucher, de peur d'embaucher et de ne plus pouvoir débaucher le jour où le carnet de commandes va diminuer. Il a peur de ne plus pouvoir débaucher et du coup de se retrouver en difficulté au niveau de son entreprise. Donc c'est plus de souplesse pour les employeurs pour permettre de redémarrer l'activité et recréer de l'emploi.
Autour de vous, connaissez-vous des gens qui cumulent des CDD courts de quelques mois, voire de moins d'un mois?
Non. Alors après, non, ou des grandes missions, mais des CDD d'un mois, je savais pas qu'on pouvait, hormis être stagiaire de vacances, je vois pas, je n'en connais pas quoi en fait.
Le travail intérimaire par exemple, il y a des contrats de 4 heures pour la journée?
Alors est-ce que c'est pas propre aux grandes villes? C'est une question parce que moi j'habite en milieu rural et que je n'ai pas l'impression que ce sont des pratiques courantes. Bon après peut-être que je... Voilà, mais... Non, j'ai jamais vraiment entendu ce genre de contrat.
Dernière question, Brigitte. En 2015, le MEDEF a rendu public un cahier de doléances pour l'emploi. Mm-hmm. Parmi les 6 propositions du MEDEF, combien sont reprises par l'actuel projet de loi ?
6. Et ça, c'était la façon dont vous avez posé la question induisait la réponse.
C'est là où on dit aussi, et c'est pas moi qui le dis, c'est Le Figaro, ouais, qui dit le MEDEF en a rêvé, Macron l'a fait.
Ouais. Oui, and so what?
En 2015, le MEDEF a rendu public un cahier de doléances pour l'emploi. Parmi les 6 grandes propositions du MEDEF, combien sont reprises dans la loi travail? Je n'en sais strictement rien, j'ai pas lu le rapport du MEDEF pour me faire mon opinion sur la loi travail. Une fois de plus, ce que je dis, c'est que cette réforme de la loi travail va être surtout utile aux PME-PMI, et c'est celles-là qui ont besoin aujourd'hui de souplesse dans la réforme du Code du travail.
La réponse est que les 6 propositions étaient dans le cahier de doléances du MEDEF.
Mais ma réponse à moi, c'est que les ordonnances ne sont pas votées, donc j'attendrai de voir les ordonnances pour savoir lesquelles ont été reprises exactement.
En 2015, le MEDEF a rendu public un cahier de doléances pour l'emploi. Parmi les 6 grandes propositions du MEDEF, combien sont reprises par l'actuelle réforme du Code du travail ?
Je ne sais pas du tout, j'ai pas vu le rapport. Non, je ne sais pas. Les 6 grandes ont été reprises, en particulier le CDI de chantier.
D'accord, non, mais comme je n'ai pas participé, j'ai lu que la fin pour les points qui ont été votés, puisque je ne les ai pas votés. Et non, mais je ne savais pas. Je sais pas. Là, je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que le CDI de chantier est utilisé actuellement. On n'a pas non plus...
Uniquement dans le secteur du bâtiment.
On n'a pas non plus de retour négatif par rapport à cette utilisation. Si on parle, en fait, je pense pas que la mission chantier, le contrat chantier soit quelque chose de précaire. Après, en plus, bon, enfin, j'ai pas non plus assisté au débat, donc je peux pas vous dire dans les détails les points qui ont été remontés négativement ou qui ont été valorisés par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais eu affaire à ce type de contrat, donc je peux pas vous dire, je connais pas, quoi, en fait.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Les Débutants, 3e épisode, question sur la loi travail, un reportage de Pascal Pascariello et Valérie Borst, réalisé par Alexandra Malka. Merci à Brigitte Lizot, à Jean-Baptiste Moreau et à Séverine Gibson. Merci également à Pauline Mocor et à Rémi Douatte. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire du moment. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux si elles vous ont intéressé, à les poster sur Facebook, à les indiquer sur Twitter, à les liker, à les retweeter, à les écouter quand vous voulez et où vous voulez, après vous être abonné, si ce n'est pas déjà le cas, à notre podcast Les Pieds sur Terre, désormais disponible également sur iTunes.